Alors prions. Éternellement Dieu, on vient devant toi ce matin, on veut te demander de venir vraiment prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, tu connais nos sources de distraction, tu connais nos préoccupations, et Seigneur, on veut vraiment prendre une pause de toutes nos préoccupations, nos inquiétudes. On veut mettre ces choses-là de côté pour accueillir ta parole ce matin. Donc, je te prie, Seigneur, que tu puisses venir ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse recevoir de toi ce matin. Et c'est en ton nom puissant, Jésus, que nous prions. Amen. Donc, bienvenue à vous ce matin. C'est un plaisir de vous avoir. Pour ceux qui étaient là il y a deux semaines, c'est moi aussi qui ai prêché il y a deux semaines. On est encore dans notre série sur le livre de Marc. Il y a deux semaines, je vous parlais d'un appel courageux qui était l'appel à accepter la souffrance et à entrer dans la souffrance qui fait partie de la vie. Ce matin, je vous parle d'un deuxième appel courageux qu'on retrouve dans le livre de Marc et qui nous vient de Jésus lui-même. Un appel à délaisser l'envie de prendre vos jambes à votre cou et puis sortir tout de suite en courant ou encore en vous agripper à votre portefeuille, le cacher dans un endroit stratégique. Inquiétez-vous pas, ce matin, il n'y a pas d'appel à donner de manière spéciale qui va suivre. Cet appel-là, si vous le recevez, que ce soit de la part du Saint-Esprit, de Dieu lui-même, et non pas de moi ce matin, ce dont je veux nous parler, ce n'est pas nécessairement juste des richesses financières, mais c'est de toutes ces choses-là auxquelles on s'attache, qui constituent nos richesses et qui peuvent limiter notre épanouissement spirituel, donc qui peuvent limiter notre capacité à suivre Jésus pleinement. Donc, avant d'aller plus loin, allons au meilleur endroit où on peut commencer. Commençons dans la parole de Dieu ce matin. On est dans le texte de Marc 10. Donc, des gens lui amenaient des petits enfants afin qu'il les touche, c'est-à-dire qu'il les amenait à Jésus. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie spirituelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, « Qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le royaume à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Si vous avez passé un certain temps dans l'Église, si vous avez lu à travers les Évangiles, c'est probablement pas la première fois que vous entendez ces deux histoires. L'histoire de Jésus qui accueille les enfants et l'histoire de l'homme riche, ou parfois on la connaît un peu plus sous le nom de le jeune homme riche, qui sont venus à Jésus. Cette histoire a pour nous une signification particulière ce matin, mais avant d'entrer un peu dans l'analyse, j'aimerais vous parler de quelqu'un. Je ne sais pas si vous reconnaissez une des deux personnes sur cette photo. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre un guess, qui veulent essayer de deviner? Oui.
C'est clairement...
Effectivement, c'est clairement moi, la petite, sur cette photo. Alors, vous me voyez ici à l'âge d'environ 5 ans, 5 ou 6 ans, dans ces eaux-là. Et je vous raconte une histoire. Moi, quand j'étais enfant, ma mère, elle m'habillait souvent avec des belles grandes robes comme ça. Elle me faisait, j'avais les cheveux très longs, donc qui descendaient jusqu'à mes cuisses. Et ma mère me faisait des grandes tresses, des peignures. Et donc, souvent, je sortais en public, hein, les gens disaient « Oh, la belle petite princesse! Oh, la belle petite princesse! » Et un jour, il est arrivé quelque chose de dramatique. En 1997, la princesse Diana est morte. Et la télé était ouverte à la maison pour que j'ai vu les funérailles. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais pas une vraie princesse. Le drame. Je pleurais. Ma mère comprenait pas. J'étais hystérique. Ma mère se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, je m'exclame, vous m'avez tous menti! Et tout d'un coup, une petite partie de mon enfance est partie. Je ne croyais plus d'emblée ce que les adultes me disaient. Je me posais la question deux fois. Quand vous pensez à votre propre histoire de vie, je suis sûre que vous êtes capable d'identifier des moments où, tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte que l'enfance a cédé la place à la vie d'un adulte. Et malheureusement, parfois, c'est pas toujours positif. Dans ce contexte-là, c'est un peu comique. Évidemment, les adultes ne voulaient pas me conter des mensonges et me faire croire que j'étais quelqu'un que j'étais pas. Mais moi, j'avais mal compris. Mais parfois, on vit ce genre de déception-là. Et ces déceptions-là peuvent avoir un impact sur notre marche avec Dieu. Par exemple, on a prié par rapport à quelque chose et tout d'un coup, ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu. On a l'impression que Dieu ne nous a pas répondu. Et tout d'un coup, on se dit, est-ce que je peux vraiment avoir la foi en Dieu? Notre confiance qui était au départ simple, qui était peut-être donnée plus facilement, devient un peu plus compliquée. Et notre relation avec Dieu se vit dans des tensions où tout d'un coup, on n'a plus la simplicité d'un enfant. Et peut-être même, vous me direz, vous avez déjà vécu cette expérience-là. Des fois, même les gens nous reflètent à croire en Dieu, à mettre sa foi simplement en Dieu. C'est les gens naïfs qui font ça. C'est pas les gens qui sont sages ou intelligents ou les grands de ce monde. Et Jésus nous enseigne quelque chose d'un petit peu différent dans ces deux histoires-là, qui, selon moi, ce n'est pas un hasard, qui ont été rassemblées côte à côte. Et on va aller creuser un petit peu plus par rapport à ça. Donc, on peut avoir de la difficulté à croire à la provision de Dieu lorsqu'on devient adulte. Mais voici deux histoires et une seule victoire. Le texte nous présente d'abord les enfants comme un exemple de ce qu'on doit devenir comme enfant de Dieu. Quiconque ne devient pas comme un enfant ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et on nous présente aussi l'histoire du jeune homme riche comme l'exemple de ce qu'il ne faut pas devenir. Parce que si on devient comme le jeune homme riche, on n'arrive pas à pleinement suivre Jésus. Mais allons voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, en fait, de devenir comme un enfant. Quelles sont les vertus ou les qualités de l'enfant, du très, très jeune enfant? Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas, nous dit le texte. Eh bien, d'abord, il faudra, et ça c'est entre parenthèses, hein, il faudra comprendre que Jésus sous-entend qu'on peut l'accepter comme un enfant, qu'un enfant aussi peut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, réfléchissons, parce que des fois, nos enfants, hein, ou les enfants de l'Église ont des choses à nous apprendre spirituellement, dans la manière dont eux-mêmes entrent en relation avec Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de recevoir une leçon spirituelle d'un enfant, mais ça se peut. Ils peuvent être aussi disciples de Jésus. Donc, qu'est-ce qui caractérise la foi d'un enfant? Eh bien, je suggère trois choses ce matin. La simplicité, la confiance et la dépendance. Un enfant sait qu'il doit dépendre de son parent. N'est-ce pas? Un très, très jeune enfant, il ne peut pas se nourrir par lui-même. Il a besoin que son parent soit lui donne le sein, soit le biberon, n'est-ce pas? Un jeune enfant va, avec simplicité, suivre son parent, à part quand il est dans la phase du 2 ans. Mais normalement, un très, très jeune enfant, avant qu'il arrive aux 2 ans, il y a une simplicité dans sa relation avec ses parents et il y a une confiance qui est là de base. Les enfants savent aussi aimer sans questionner. Je pourrais vous parler ce matin d'une des personnes les plus précieuses pour moi dans ma propre enfance, que j'aimais. Et pour moi, là, ce monsieur-là, c'était le monsieur le plus extraordinaire du monde. Et puis, j'ai grandi, et je me suis rendu compte en grandissant que cette personne-là, elle avait beaucoup de problèmes qui faisaient que j'étais peut-être une des seules personnes à l'idolâtrer dans mon enfance. Mais un enfant aime simplement. Et je pense que c'est un appel pour nous aussi dans notre relation avec Dieu à simplement aimer Dieu, donner notre amour à Dieu avec toute simplicité. Les enfants aussi savent aimer et tout donner, en fait. Et là, je vous parlerai de mon neveu Logan et de sa mamie, qui est ma mère. Alors, mon neveu a 3 ans. Et du haut de ses 3 ans, il a décidé qu'il voulait aller habiter chez mamie. Alors, quand il est à la garderie, et pour vous mettre en contexte, sa mère et ma mère travaillent dans cette garderie-là. Dès qu'il voit ma mère, il dit « Mamie, on va chez toi après le travail. Mamie, tu vas m'embarquer avec toi. » Et si ma mère a le malheur d'appeler, mamie, tu viens me chercher quand pour m'amener chez toi? On va aller à la ferme, on va faire ci, on va faire ça. Si ma mère vient visiter, c'est la même chose. Et un certain temps, il l'a gardé pendant quelques jours. Et à un moment donné, il lui dit, mamie, on pourrait aller visiter maman avec mon petit frère et tout. Tu sais, ben oui, ça serait le temps qu'on retourne chez toi. Et donc, elle le ramène à la maison. Et à peu près 1 heure, il dit « Bon, ben, je serais prêt, on pourrait rentrer chez toi, mamie. » Alors, son attachement à ses propres jouets, à ses parents, à son petit frère, est vraiment secondaire à son attachement à sa mamie. Je pense que pour nous aussi, ça peut être un peu la même chose par rapport à Dieu. Notre attachement à ces choses-là qu'il nous donne, que ce soit des relations ou des biens matériels, devrait devenir un peu secondaire si on retrouvait notre cœur d'enfant qui est tellement émerveillé par Dieu que, ben Dieu, je vais peut-être faire une petite escapade, là, mais j'ai tellement envie de retourner dans ta présence. J'ai tellement envie d'être avec toi. Donc, nous avons les enfants, mais nous avons aussi l'homme riche qui porte un poids. Il vient à Jésus et lui dit « Que dois-je faire pour hériter de la vie spirituelle, de la vie éternelle, pardon? » Et la première question qu'on peut se poser, si après avoir vu Jésus qui reçoit les enfants auprès de lui, il arrive en courant et il dit « Seigneur, que dois-je faire pour hériter de la vie spirituelle, de la vie éternelle? » On peut se demander « Y a-t-il rien compris de ce que Jésus vient d'enseigner par rapport aux enfants? » C'est pas par rapport à qu'est-ce que tu fais? Venir à Dieu comme un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un bébé, un nourrisson peut faire pour son parent, pour que son parent l'aime, pour que son parent en prenne soin? Il ne peut rien faire. Mais le jeune homme riche veut savoir qu'est-ce que lui, il peut faire. Comment il peut dépendre de lui-même pour se rendre jusqu'à Dieu? Il lui dit, Jésus, j'ai suivi ces commandements-là dès mon enfance. Et littéralement, on parle ici dans le texte de jeune enfance. Depuis que je suis tout petit, là, j'ai fait ta volonté. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus le regarde et que Jésus l'aime. Et je pense que ça sous-entend que Jésus savait que c'était probablement vrai. Probablement là, que cet homme-là, dès son enfance, avait cherché à faire la volonté de Dieu. Il cherchait à faire la volonté de Dieu, mais il était complètement aveugle à son état spirituel. Il ne comprenait pas qu'il portait un poids très solide parce qu'il dépendait de lui-même. Laissez-moi vous expliquer un peu plus en profondeur. Vous voyez cet homme-là, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais il y a comme, c'est comme s'il y a une valve qui ouvre, là, puis quand il ouvre la valve, la richesse sort. Il y a le secret. Ici au Québec, on dit l'argent qui pousse dans les arbres. Hein? L'argent ne pousse pas dans les arbres, on n'est pas capable de le trouver comme ça. Mais lui, l'homme riche, là, il a tout accès à ses richesses, comme il veut. Et le retour en arrière n'est pas instinctif. Retrouver son cœur d'enfant quand on a appris à s'attacher à nos richesses, c'est pas instinctif. Quand on a appris à dépendre de nous-mêmes plutôt qu'à dépendre de Dieu, quand on a appris à avoir toutes ces réflexions-là puis décider si on va faire confiance à Dieu par rapport à ça ou pas, si c'est assez logique ou c'est pas assez logique de faire confiance à Dieu par rapport à ça. C'est pas facile de retrouver la simplicité d'un enfant. C'est pas facile d'apprendre à dépendre de Dieu. Et donc, ça demande un choix, un échange conscient. J'échange mon doute avec la foi. J'échange la foi par mes propres forces, par mes propres œuvres, à une attitude de dépendance envers Dieu. Et c'est vrai, on pourrait dire, c'est pas le fun, les richesses, n'est-ce pas? Ça peut nous rendre anxieux. J'ai-tu assez d'argent? J'ai-tu pas assez d'argent? Est-ce que mes placements, ils vont fructifier ou pas? Comment je vais faire de pourcentage d'intérêt? Ça peut même nous amener une forme de dépendance. Il faudrait que je travaille plus pour mettre plus d'argent de côté, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça pour payer ci, pour payer ça, pour obtenir ci, pour obtenir ça. Mais si on se dit la vérité, là, nos richesses, là, c'est souvent une source de motivation et ça donne un sens à notre vie. Pourquoi on investit dans des relations? Pourquoi on travaille? Peut-être pour avoir une bonne retraite, hein? Peut-être pour avoir un foyer stable, des enfants qui vont prendre soin de nous plus tard. Si on n'est pas prudent, nos biens ou nos avoirs peuvent devenir notre première source de motivation, le premier sens à notre vie. Et donc, on devient chrétien en deuxième position, enfant de Dieu de manière secondaire, disciple de Jésus, élève apprenant de Jésus à temps partiel et travailleur pour sa retraite à temps plein. Et on inverse les choses sans s'en rendre compte. Et sans s'en rendre compte, on fait des compromis par rapport à sa relation avec Dieu, à poursuivre peut-être une idole. Certainement, vous aurez plein d'exemples peut-être qui vous viennent en tête. Hein? Je peux pas faire ce que Dieu me demande parce que je dois plutôt faire ceci ou plutôt faire cela. Hein, je peux pas, je pense par exemple à une personne que j'ai connue un jour, hein, je peux pas être dans le ministère parce que l'époux ou l'épouse, ça y tente pas. Ça va être trop de sacrifices, là, tu vas devoir inviter des gens à la maison, puis moi j'aime pas ça qu'on ait de la visite, puis là en plus ton salaire sera pas aussi bon que dans tel travail. Oh, c'est pas, non, tu peux pas rentrer dans l'appel que Dieu te donne pour le ministère. Une autre personne, et c'est une personne, je dois vous dire, qui n'est pas chrétienne et que j'ai beaucoup aimée pour son honnêteté. C'est une personne avec qui j'ai travaillé par le passé. Et cette personne me dit, en confidence, qu'elle a a vécu un avortement. Et la raison qu'elle me dit, c'est si j'avais eu cet enfant-là, j'aurais pris un congé de maternité d'un an et donc j'aurais pas cotisé pendant un an à mon régime de retraite. Et donc j'aurais été pénalisée. Mais elle dit, aujourd'hui, je le regrette. Des petites décisions ou des grandes décisions, quand notre première richesse, c'est pas Jésus, mais c'est sa provision ou les bonnes choses de la vie qu'il nous donne. Et c'est le problème que l'homme riche avait. Son attachement premier n'était plus envers le pourvoyeur, hein, celui qui nous donne de bonnes choses dans la vie, Dieu lui-même, mais c'était plutôt la provision. Donc, qu'est-ce que Dieu donne? Et c'est subtil, hein? Dans notre vie, si on ne prête pas attention, si on n'a pas de bonne discipline spirituelle, si on n'a pas des gens de confiance qui sont capables de nous regarder aller et de nous aider à dire « je pense que peut-être en ce moment, tu es en train d'inverser les choses. Peut-être tu es en train d'aimer plus la provision que le pourvoyeur en ce moment. Hein? Peut-être tu aimes mieux les choses que Dieu te donne que Dieu lui-même. » Eh bien, on ne s'en rend pas compte. Parfois même, c'est les épreuves de la vie qui nous amènent à nous remettre en question. En ces moments-là dans nos vies où on a une décision à prendre, faire la volonté de Dieu ou obtenir quelque chose, un gain, que ce soit un gain relationnel, un gain matériel. Et c'est à ces moments-là que notre relation avec Jésus est mise au défi. En quoi je vais avoir plus confiance? Envers qui je vais être plus attachée? Je suis consciente que peut-être parmi vous, il y en a qui vont dire, « Moi, des coffres au trésor à la maison, j'en ai pas. Je gratte mes scènes, je travaille avec des coupons hein, pour payer mon épicerie. » Mais j'aimerais vous commencer en vous disant, on est tous riches. On n'est peut-être pas tous des princes ou des princesses, comme moi qui a réalisé que je n'étais pas vraiment une princesse, que ma famille n'avait pas autant d'argent que la famille de la princesse Diana, hein, que je n'étais pas autant spéciale qu'elle. Mais on est tous attachés à certaines choses. Et le texte ici, quand Jésus parle, si on prête attention, il nous parle de différentes richesses. Il nous parle de richesses relationnelles, hein, va quitter son père, son épouse, ses frères, ses sœurs, etc. Il nous parle d'une richesse relationnelle, hein, des relations qui sont précieuses. Il parle aussi de la source de subsistance, hein, quiconque qui va quitter ses terres. Et pour se remettre un peu dans le contexte, hein, à l'époque, si on est dans une culture qui vit principalement de l'agriculture, donc tes terres, hein, c'est ta source de revenus, c'est ta source de manger. Il dit quitter sa maison, hein, son habitation, le lieu d'où tu viens, finalement, où tu es attaché. Il dit même, hein, va vendre qu'est-ce que tu as pour donner. Donc, il parle même des réserves qu'on a. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on a tous des richesses auxquelles on est attaché. Et Jésus nous appelle à évaluer nos richesses à la lumière de son royaume, de son appel de disciples. On n'est pas tous appelés à être missionnaires ou à être pasteurs, mais on est tous appelés à être des apprenants ou des disciples, des élèves de Jésus, des gens qui marchent à sa suite et qui vont entrer dans ses commandements. Donc, le commandement que Jésus donne ou l'histoire du jeune homme riche n'est pas seulement pour un jeune homme riche, c'est pour chacun d'entre nous aussi qui sommes disciples de Jésus. Mais Jésus est bien conscient hein, que c'est un peu impossible. Hein, il nous donnera cette image-là de c'est comme un chameau qui veut passer dans le trou d'une aiguille. Donc, juste avec cette photo-là, c'est un petit peu impossible. Hein, on le voit déjà à l'œil. Mais là, imaginez-vous que cette image-là n'est pas à l'échelle. Son aiguille est pas mal grosse puis son chameau il est pas mal petit. Donc, c'est encore plus impossible. Mais Jésus nous dit que l'impossible est possible pour Dieu. Je peux apprendre à mettre Dieu en premier et mes richesses, mes attachements en deuxième. Par contre, il faudra que Dieu opère en moi un miracle. Et là, j'insiste sur le mot un miracle. Pour que je détourne mes yeux des richesses matérielles ou relationnelles, pour porter mes yeux sur les richesses spirituelles. Jésus le dira dans le texte qu'il va avoir un trésor dans les cieux, mais aussi une bénédiction sur terre. Alors, c'est les deux. Lorsqu'on choisit à s'attacher à Jésus en premier, Dieu nous encourage dans la vie de tous les jours, mais prépare aussi pour nous des richesses dans l'éternité, dans sa présence. Mais ce retour-là à la foi ou à la confiance d'un enfant, à une dépendance totale à Dieu, c'est le fruit du Saint-Esprit en nous. On ne peut pas y arriver par nos propres forces. Et là, je vous dis un secret. De la même manière qu'on commence la vie chrétienne, on la finit. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est sauvé. Comment on est sauvé? Est-ce qu'on est sauvé par nos œuvres? Est-ce qu'on est sauvé parce que toi, dans la suite des commandements de Dieu, tu as un A+, donc Dieu t'amène dans son équipe. Celui qui a un C, bien là, il le met de côté. Non. On est sauvé par la foi lorsqu'on reconnaît qu'on ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes, mais qu'on a besoin de sa grâce. Lorsqu'on reconnaît que Jésus a pris la condamnation qui nous était due, puis qu'en mettant notre foi en lui, on peut recevoir le pardon de nos péchés. Ça, dans tout ça, là, il n'y a rien qu'on fait. Sinon, venir comme un petit enfant avec confiance et dépendance. Et pour progresser dans notre relation avec Dieu, c'est la même attitude qui continue. Et c'est ça que Jésus est en train de montrer au jeune homme riche. Tu as fait plein de bonnes choses, puis je suis vraiment content que tu suives mes commandements. Mais je veux que tu reviennes à cet état-là de dépendance et de foi. Et c'est notre appel pour nous ce matin. Et c'est peut-être une question aussi pour vous ce matin. Vivez-vous dans une foi qui est simple, qui accepte de faire confiance à Dieu? Êtes-vous dans la dépendance envers Dieu ou êtes-vous en train de travailler pour vos propres forces? Et il y en a qui disent que ça, on peut le mesurer à votre vie de prière. Donc, nous sommes appelés à délaisser nos richesses terrestres pour faire de Dieu notre plus grande richesse. Amen. Et là, je m'excuse, dans la transition du PowerPoint, ça ne s'est pas bien fait. Moi, j'avais un fond blanc derrière l'image, donc on voyait bien le texte pour le mettre en relief. Mais là, vous allez juste devoir m'écouter. On est appelé à délaisser nos richesses pour faire de Dieu notre plus grande richesse. Donc, la vie au travail, ça devrait ressembler un petit peu avec comme ça, ce monsieur-là, qui est capable de se reposer au sein de son travail. Il n'est pas dans l'anxiété. Il est dans la paix. Et Dieu pourvoit à nos besoins. Il le promet d'ailleurs. Et là, je vous ramène dans Matthieu un texte que vous connaissez déjà. Le texte nous dit ceci. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Personne ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce dont vous habillerez votre corps. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » C'était vrai pour l'homme riche, n'est-ce pas? Il a fait un choix. Il ne pouvait pas servir ses biens, ses richesses ou Jésus. Et il a choisi ses richesses. Et c'est peut-être là où il a échoué le test. Et on ne sait pas l'histoire. Peut-être que plus tard, il a appris de ça et il est allé de l'avant avec sa suite à Jésus. Et c'est la même chose pour nous. Il y a des moments où on échoue le test, où on met notre attachement premier dans une relation ou dans des biens ou dans un attachement à un lieu qui nous est familier. Et on met notre attachement à Dieu en deuxième. Et Dieu est rempli de grâce. Hein? Il peut nous donner d'autres opportunités de corriger le tir. Et donc, ce matin, je vais vous encourager, si vous réalisez que, oh là là, de ce côté-là dans ma vie, j'ai mis Dieu en deuxième et j'ai mis peut-être une relation en premier ou j'ai mis autre chose en premier. Dieu est rempli de grâce et il veut nous enseigner, il veut nous encourager dans la bonne direction. Et donc, j'espère que ce matin, vous entendez mon message comme un encouragement à aller plus loin avec Jésus. Mais vous savez, les richesses, c'est un défi bien connu. Et l'Église, à travers les différentes époques, a eu différentes réactions à ça. Donc, si vous réalisez ici, c'est des religieuses de dos qu'on voit ici. Et en fait, je veux vous parler de différents courants. Si vous êtes d'un arrière-plan catholique, vous aurez déjà entendu que souvent les religieuses faisaient vœu ou les frères de pauvreté. Et puis, au Moyen Âge, il y a eu un courant qui était un petit peu plus intense, disons, et ils appelaient ça la vida apostolica, donc la vie apostolique. Et ce que les gens faisaient, certaines des personnes, des congrégations, comme par exemple les franciscains, ce qu'ils faisaient, c'est ils donnaient tout ce qu'ils avaient complètement, et là, ils devenaient des itinérants finalement. Alors, ils devaient quêter pour avoir de quoi manger. Et tout ce qu'ils voulaient faire, c'est parler de Dieu, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était quêter pour survivre, dans le fond. Parce que c'est comme ça qu'ils comprenaient le fait de délaisser ses richesses pour suivre Jésus. OK? Mais ce matin, c'est pas nécessairement à ça qu'on est appelé, n'est-ce pas? Alors là, on parle de vraiment un extrême. De tout mettre de côté pour suivre Jésus. Et ce n'est pas nécessairement à ça que Dieu nous appelle. Donc, le travail et accumuler des ressources, des richesses, travailler à investir dans ses relations n'est pas incompatible avec le service de Dieu. Et dans cette même période-là de l'histoire, il y a eu un autre genre de regroupement chrétien. Et ces femmes-là, elles s'appelaient les Béguines. Ce n'était pas une congrégation religieuse formelle, mais c'était des laïcs. Et qu'est-ce que ces femmes-là ont décidé de faire? C'est souvent des veuves ou des femmes qui n'étaient pas mariées, célibataires. Ils ont décidé de travailler, de prendre des ressources pour avoir des maisons, avoir à manger et utiliser leur surplus pour faire du bien aux gens autour d'eux. Donc, avec leur surplus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris soin des malades. Ils sont occupés pour qu'il y ait de l'éducation religieuse aussi. Donc, ils ont fait différentes choses avec leur surplus. Et donc, ce matin, quand on entend « va vendre tout ce que tu as, puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi », je ne veux pas qu'on entende dépendre de Dieu, ça veut dire rien faire, s'asseoir sur son divan et attendre. Ce n'est pas ça que je veux qu'on apprenne du message ce matin. On parle plutôt d'une attitude, de dépendance et une attitude de confiance. Et cette attitude-là, elle n'est pas incompatible avec le travail. Au contraire, on peut honorer Dieu lorsqu'on investit dans nos relations, mais sans faire de nos relations une idole qui va dicter notre vie spirituelle. On est un bon témoignage aussi lorsqu'on choisit, avec les ressources qu'on a, par exemple, de travailler, de payer son logement, sa maison, ces choses-là. On fait preuve de sagesse sans que ça devienne l'objectif ultime de notre vie, sans qu'on devienne attaché au point que si le Seigneur me met à cœur d'aider quelqu'un, je ne peux pas le faire parce que je suis trop attachée à mes propres richesses. Le chrétien mature comprend une chose. Oui, ce n'est pas seulement ma dîme que je donne à Dieu, mais c'est tout ce que Dieu me donne et pour réinvestir dans son royaume. Mais moi aussi, je fais partie des gens qui bénéficient de la provision de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si Dieu vous donne une maison, des relations significatives, des fonds, c'est pour vous bénir vous aussi, mais ce n'est pas que pour vous bénir vous. C'est aussi pour mettre au service de son royaume. Donc, ce n'est pas juste l'un ou juste l'autre, c'est quelque part entre les deux. Et Dieu nous offre la liberté. Lorsque Dieu dit « devenez comme des enfants », d'ailleurs, merci à Faux pour cette photo. On dirait que c'est toi. Quand je l'ai vue, j'ai dit « mon Dieu, c'est comme à Faux Je t'imaginais dans cette liberté totale. Et donc, Dieu nous offre la liberté lorsqu'on apprend à dépendre de lui avec confiance plutôt que de tomber dans l'anxiété et l'attachement malsain à nos richesses. Parce qu'en fait, si mes relations ou certaines de mes relations sont plus importantes que ma relation avec Dieu, eh bien, ça devient une forme d'esclavage, n'est-ce pas? Si mes biens matériels sont plus importants que ce que Dieu veut faire à travers ces biens-là pour bénir d'autres ou pour bénir l'Église ou pour me bénir, alors, ça devient un esclavage que je vis. Et Dieu ne veut pas qu'on soit esclave d'un monde qui est temporel. On est sur terre pour un petit peu de temps et après, on va être dans l'éternité, dans sa présence. Et Dieu veut déjà qu'on goûte à la liberté de savoir qu'il nous aime tellement, comme un bon papa céleste, qui va prendre soin de nous et qui va nous utiliser aussi pour prendre soin des autres. Mais voici, on peut être étonné, effrayé, triste, comme les disciples ou l'homme riche. C'était les réactions qu'on voyait dans le texte. Comment ça? Comment ça, Jésus? J'ai pas trop envie de faire ça, moi. Faut que je laisse tomber ça pour te suivre, Jésus. Ou on peut simplement être dans la joie et la simplicité d'un enfant qui a confiance que son bon papa céleste va prendre soin de lui ou d'elle. Et si on ne contrôle pas nécessairement notre réaction initiale, parce qu'une réaction, c'est on apprend une nouvelle, on a une réaction. On peut vraiment choisir dans quel état émotionnel on veut demeurer, dans quel sentiment on veut qu'il demeure dans notre cœur. Et pour ça, on doit venir à Jésus avec nos réactions. Seigneur, c'est comme ça que je me sens par rapport à ça. Moi, Seigneur, là, j'ai pas tellement envie de mettre cette relation-là en deuxième. Cette personne-là est tellement importante pour moi. « Oh Seigneur, même si tu me dis là, de prendre une distance, non, non. Je veux lui faire plaisir avant de te faire plaisir. » Des fois, il faut avoir ces relations cœur à cœur-là honnêtes avec le Seigneur. Seigneur, j'ai peur de ne pas avoir assez de sous. J'ai peur de manquer. Il faut avoir ces conversations-là honnêtes, cœur à cœur avec Dieu. Et Dieu est capable de créer en nous cette simplicité-là d'un cœur d'enfant. Il est capable de nous redonner l'enfance que parfois on a choisi de mettre de côté, mais parfois qui nous a été volée aussi. Dieu peut nous restaurer. Et donc la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on va repartir d'ici? Dans une minute, je vais vous proposer deux questions de réflexion qui vont nous amener à prendre une décision personnelle. Mais d'abord, posons-nous cette question-là. Comment est-ce que moi j'ai envie de repartir d'ici alors que j'entends l'appel de Jésus de dépendre de lui, de lui faire confiance avec simplicité, de retrouver un cœur d'enfant qui est finalement une forme de maturité spirituelle? Comment est-ce que j'ai envie de repartir ici? Est-ce que je vais accepter le défi de Jésus d'adopter l'attitude d'un enfant par rapport aux richesses de ce monde? Est-ce que je suis prête à délaisser mes attachements malsains, ceux qui freinent mon service pour Dieu? J'aimerais qu'on puisse prendre une minute juste pour peut-être fermer nos yeux et inviter le Seigneur à nous montrer qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Seigneur, on reconnaît que c'est facile de s'inquiéter, que c'est facile de s'accrocher à des personnes, à des lieux, à des réserves, à des avoirs autres. Et que c'est facile de mettre notre confiance dans ces choses-là et d'arrêter de dépendre de toi. Seigneur, on est faible dans notre foi et on a besoin que tu opères en nous un miracle pour pouvoir retrouver notre cœur d'enfant, notre capacité à te croire simplement, à t'obéir, à faire preuve de sagesse, oui, mais jamais en dépendant de nous-mêmes. Seigneur, montre-nous ce matin ces zones-là de notre vie où on est anxieux, irrité peut-être, ces symptômes-là émotionnels qui nous parlent d'un attachement malsain à de bonnes choses que tu nous as données. Oui, Seigneur, on veut que tu sois notre attachement premier. Jésus, voudrais-tu venir prendre toute la place? Seigneur, ce matin, on te demande pardon d'avoir échangé notre confiance en toi pour une confiance dans des biens, des relations, des choses finalement qui sont tellement fragiles. Alors que toi, tu es un Dieu fort qui ne change pas, qui est solide. Seigneur, toi, tu es habitué à pourvoir aux besoins de tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, d'être devenu habitué à douter, habitué à s'inquiéter. Aide-nous à délaisser tout ce qui nous empêche de te suivre. Merci, Seigneur Dieu, pour ta promesse de prendre soin de nous en cette vie et de nous donner des richesses dans l'éternité aussi. Toi qui es le juste juge, on t'invite, Seigneur. On t'invite à prendre toute la place. Et c'est en ton nom qu'on prie, Jésus. Amen.